Une brève histoire d'un long voyage de Babylone à Bethel par Stephen Crisp, éminent serviteur de Jésus-Christ, en tant que ministre Quake. Introduction. Parce que cet écrit était craint comme étant fictif, la Société des Quakers ne le publia pas avant 20 ans après son achèvement. Censuré par l'organe officiel des Quakers, il resta sans être imprimé jusqu'en 1711. Il fut ensuite réimprimé plus de 20 fois. John Bunyan était un ministre baptiste et un ennemi des Quakers, ayant écrit plusieurs livres très critiques à l'égard de la foi quake. Cliquez pour lire les réfutations de Fox au livre 1 et au livre 2 de Bunyan critiquant les Quakers. Le célèbre ouvrage de Bunyan, The Pilgrim's Progress, avait paru et était largement salué comme le plus grand roman religieux de l'époque. Stephen Crisp écrivit ce traité contrasté pour mettre en évidence les différences entre la foi extérieure de Bunyan, faite de rituels, et la foi quake intérieure, de renouvellement du cœur, en recourant à un récit fictif de voyage semblable. Bunyan fut légalement emprisonné pour avoir prêché sans licence. Grâce aux efforts de George Whitehead, un autre éminent ministre quake, Bunyan fut libéré par décret du roi Charles Yee, montrant que les Quakers aimaient leurs ennemis, rendant assistance pour l'insulte. Le titre de l'œuvre de Crisp a une grande portée. Il commence son voyage à Babylone, les églises protestantes et les églises catholiques de son temps et encore aujourd'hui, la bête aux cornes semblable à celle d'un agneau imitant l'église du Christ. Et il aboutit, tout en étant encore sur la terre, à Bethel, la maison de Dieu, le temple de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Le tableau ci-dessous est présenté pour contraster cette novella de 30 pages de Crisp avec le roman de 207 pages de Bunyan, élément du voyage de Babylone à Bethel, Crisp le voyage du pèlerin, Bunyan paquet sur le dos plein de vêtements, etc. Le fardeau du péché originel guide du voyage écarte les humains, s'appuie plutôt sur la lumière direction humaine. Traverse le fleuve de la mort à la vie, traverse tôt dans le voyage, ne traverse qu'après la mort atteint, la destination arrive à la maison de Dieu de son vivant seulement après la mort, c'est, en vérité, le voyage de Stephen Crisp. Il a commencé dans la Babylone protestante, a rejoint la foi quake et a voyagé jusqu'au royaume de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, par la grâce et la direction de Jésus-Christ, le Maître. Il a ensuite, fidèlement, exercé le ministère auprès d'autres personnes dans leur voyage vers le royaume de Dieu au-dedans. Une brève histoire d'un long voyage de Babylone à Bethel au jour de ma jeunesse, lorsque je vivais à la maison, dans la demeure de mon père, j'entendais beaucoup de gens parler de la maison de Dieu, et que quiconque parvenait à y entrer jouissait de toutes sortes de bonheurs, tant en ce monde que dans celui à venir. Un grand désir s'alluma en moi, s'il était possible, d'entrer dans cette maison, pourtant je ne savais pas où elle se trouvait, pas plus que ceux qui en parlaient, mais ils en avaient entendu le récit, et ils rapportaient ce qu'ils avaient entendu. Il y avait aussi quelques livres écrits par des hommes qui avaient été dans cette maison, lesquels livres déclaraient beaucoup de la joie et de la félicité qu'ils y avaient. Je me procurai ces livres et les lus encore et encore, ce qui fortifia beaucoup ma croyance en la vérité des récits, pourtant d'aucune manière je ne pouvais dire quel était mon chemin. Mais mes désirs étaient si ardents que je me crus disposé à quitter la maison de mon père, mon pays et tout le reste, et à voyager n'importe où, partout où mes jambes me porteraient, afin de trouver cette maison. Un jour, comme je dévoilais mes pensées à un ami au sujet de cette affaire, il me dit aussitôt qu'il y avait, en chaque lieu, des hommes établis pour guider ceux qui voulaient s'y rendre, et que c'était leur métier, et qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. En entendant cela, je fus réconforté et je le priai, s'il m'aimait, de me faire connaître l'un de ces hommes. Il me dit qu'il le ferait, ce qu'il fit. Lorsque je vins à m'entretenir avec l'homme, je lui fis savoir le ferve désir que j'avais d'arriver à la maison de Dieu, dont j'avais entendu dire tant d'excellentes choses, et que je comprenais qu'il était de ceux qui étaient établis pour guider jusqu'à elle quiconque le voulait, et pour persuader d'y aller ceux qui ne le voulaient pas. Il répondit très volontiers, et me dit que c'était son affaire de guider là-bas tous ceux qui voulaient y aller, et que si je consentais à ses conditions et le suivais, il m'y conduirait. Je lui demandai quelles étaient ses conditions. Il dit que le chemin était long et le mènerait loin de chez lui, et que je devais supporter ses frais d'argent, et quelque chose en plus, à quoi j'acquiesçai. Nous partîmes donc en voyage, de bonne heure le matin, mais avant d'avoir fait une journée entière de marche, je vis mon guide s'arrêter parfois, regarder autour de lui, et parfois tirer un petit livre de sa poche et lire un peu pour lui-même, ce qui me fit commencer à me méfier, pensant qu'il ne connaissait pas mieux le chemin que moi. Toutefois, je ne dis rien, mais continuai à le suivre plusieurs jours de voyage de cette manière. Plus nous allions loin, plus mon guide était désemparé. Parfois il avançait un peu, puis regardait autour de lui et prenait un autre chemin, et parfois revenait sur ses pas pendant un moment, puis tournait encore. Ainsi mes soupçons devinrent très forts, et je commençai à éprouver une grande angoisse d'esprit, mais je lui en parlai peu. Mais un jour, comme nous cheminions, nous rencontrâmes un homme qui remarqua mon visage triste et mon état de fatigue. Il me parla très gentiment en disant « Jeune homme, où allez-vous ? » Quand je commençai à lui raconter quelque chose de mon voyage, il me pria de m'asseoir sur l'herbe, dans un endroit ombragé, et de discourir un peu de mon périple. Nous le fîmes, et je lui dis comment les choses s'étaient passées avec moi jusqu'à cette heure même. Pendant que je lui racontais mon histoire, mon guide s'endormit, ce dont je ne fus pas fâché, car j'avais ainsi plus de liberté pour m'entretenir avec cet homme. Quand je lui eus tout dit, il me prit en pitié. Il me dit que, de sa connaissance certaine, mon guide n'avait jamais été à la maison et qu'il n'en connaissait pas le chemin, sinon qu'il avait obtenu quelques indications de route qu'il avait reçues, comme moi ou tout autre aurait pu. Puis il dit que si je suivais mon guide tous les jours de ma vie, je ne m'en rapprocherais jamais et que je trouverais à la fin que j'avais dépensé mon temps, mon argent et mon travail en pure perte. Cette discussion m'étonna tellement que j'en perdis la tête et ne sus quelle partie prendre. L'homme, voyant dans quelle agonie j'étais, commença à me consoler et me dit que la maison que je cherchais était bien plus proche que je ne l'imaginais, et que si j'abandonnais ce guide et que je le suivais, il me mettrait bientôt la maison en vue. Il dit, « Et je suis de ceux qui appartiennent à cette maison, et ce depuis plusieurs années. » Et tandis que, dit-il, « Vous devez supporter ses frais et lui donner de l'argent en plus, je vous assure que ce n'est pas la manière des guides qui appartiennent à cette maison de Dieu de prendre de l'argent pour y conduire les gens. » Moi-même, j'ai été guide pour bien des personnes en mon temps, mais je ne leur ai jamais pris un seul sou pour cela. À ce moment-là, comme vous pouvez bien le penser, quel réconfort arriva à mon esprit abattu, un nouvel espoir jaillit, et la résolution d'abandonner mon guide errant et de suivre ce nouveau. Sur quoi je réveillai mon guide, lui déclarai mes intentions, le payai conformément à ce dont nous étions convenus, et lui conseillai de ne jamais servir une pauvre âme comme il m'avait servi. Car je vois, dis-je, que vous ne connaissez pas le chemin, sinon par ce que vous avez appris dans quelques livres. Si la lecture d'un livre avait pu servir mon dessein de trouver cette célèbre maison, je n'avais pas besoin de vous ni de personne d'autre pour m'y guider, car bien peu en ont écrit l'expérience, mais je les ai lus avec diligence. Maintenant j'ai rencontré un homme dont je juge qu'il a plus d'expérience du chemin que vous, et je suis résolu à aller avec lui. Et si vous confessez honnêtement votre ignorance et venez avec nous, venez, vous serez le bienvenu. Un guide peut servir deux voyageurs aussi bien qu'un seul sur le chemin. Mais je ne pus le persuader, je le laissai donc trouver son chemin comme il lui plairait. Je partis alors avec mon nouveau guide, assez joyeux, et il m'entretenait abondamment en chemin. Comme il avançait sur une route assez aisée, sans s'arrêter, il me dit que, sous peu, nous aurions la maison en vue, ce qui rendit mon voyage plus facile. Il me dit aussi quelque chose des règles et des ordres de la maison, ce qui ne me découragea nullement, car je considérais que Dieu est un Dieu d'ordre, et je ne doutais pas qu'il y eût de bonnes règles et de bons ordres dans sa maison, auxquels j'étais disposé à me soumettre. Comme nous cheminions ainsi, il me dit soudain, « Voici la maison. » J'en fus extrêmement heureux, car je pensais maintenant n'avoir pas travaillé en vain. Plus nous nous en approchions, plus ma joie augmentait, et quand je l'eus sous les yeux, je fus extrêmement satisfait en la regardant et en contemplant les tours et les tourelles qui s'y trouvaient, ainsi que les excellentes sculptures et peintures dont elle était ornée, et il y avait autant d'art dans son apparat qu'on pouvait l'imaginer. Oh, pensais-je, s'il y a tant de gloire au dehors, assurément il y en a davantage au dedans, et j'en serai bientôt participant. Comme je contemplais ainsi mon bonheur, et que j'étais arrivé, pour ainsi dire, à portée de flèche de la maison, nous devions descendre dans une vallée, ce que nous fîmes. Au fond de la vallée coulait une petite rivière, je regardai autour de moi pour voir un pont, mais n'en vis aucun. Cela m'étonna, mais nous continuâmes jusqu'à la rive. Alors je demandai à mon guide où était le pont. « En vérité, me dit-il, il n'y en a point, mais il faut passer par la rivière, comme doivent le faire tous ceux qui entrent dans cette maison. » J'en fus un peu troublé intérieurement, mais il me dit qu'il y était passé et qu'il n'y avait aucun danger. Alors je me dis en moi-même, « Ai-je fait tous ces efforts pour renoncer pour une si petite chose que celle-ci ? Qu'aurais-je traversé, lorsque j'étais dans la maison de mon père, pour parvenir à la connaissance de la maison de Dieu et à y avoir une place? Ni l'eau, ni même le feu ne m'auraient arrêté alors, si j'avais eu une aussi belle perspective d'arrivée que celle que j'ai maintenant. Je dis à mon guide que s'il voulait bien passer devant, je le suivrais. Il y entra, et moi après lui, mais quand j'arrivai au milieu de la rivière, elle y était si profonde que l'eau me couvrit la tête. Je me remuai vivement pour garder pied, et parvins bien de l'autre côté, et mon guide et moi montâmes ensemble fort agréablement. Quand nous fûmes au sommet de la colline, il y avait une vaste plaine, et au milieu se dressait la maison. Nous allâmes donc rapidement et nous en approchâmes. Là je vis un porche très majestueux à l'extrémité ouest de la maison, et à la porte se tenait un portier grand et robuste, à qui mon guide parla, disant ainsi, « Ce jeune homme a depuis longtemps le désir d'être reçu dans la maison de Dieu, je l'ai donc conduit ici. » Le portier lui demanda par quel chemin il était venu, il répondit « Par la rivière ». Je ne me souviens pas s'il me posa d'autres questions, mais il me fit bon accueil et me conduisit dans la maison, mon guide entrant avec moi, à travers de nombreux détours et sinuosités, jusque dans une grande salle. Mes yeux allaient de côté et d'autre tandis que je parcourais la maison, et dans la grande salle, j'y vis beaucoup de gens qui me souhaitèrent la bienvenue, mais nul ne connaissait l'angoisse de mon âme, car je commençais à me demander si je n'étais pas de nouveau égaré. Car je trouvais la maison sale et immonde, presque en toutes ses parties, et si tapissée d'araignées et de toiles que je me dis qu'elle n'avait jamais été balayée depuis qu'elle avait été bâtie. Et je rencontrai certaines choses qui me déplurent davantage encore, comme vous l'entendrez. Toutefois, on me fournit un bon lit pour me reposer si je le pouvais, et ayant peu de désir de résister après avoir vu qu'il était préparé, je me mis au lit et me disposai à dormir comme je pourrais. Mais hélas! Le sommeil me quitta, mon esprit fut cruellement tourmenté, et mes pensées furent nombreuses et pénibles. Parfois je pensais aux peintures du dehors, et à quel point cela ne s'accordait pas avec la saleté du dedans, et si j'avais été trompé, quelle conduite je devrais tenir. Après de longues et pénibles réflexions, je me reposai sur cette pensée « Demain ce sera peut-être mieux ». Ainsi je tombai dans un assoupissement assez long. Le matin, avant de me lever, j'entendis deux ou trois personnes se crêler au sujet de compte, l'une accusant l'autre de fraude, l'autre, au lieu de se justifier, répondit par des grognements, avec quelque chose de semblable. Ils s'échauffèrent tellement en parole que l'un menaça de mettre l'autre à la porte et de le renvoyer à travers la rivière et de ne plus jamais lui permettre d'entrer dans la maison. Mon cœur était prêt à éclater de chagrin, et dans l'angoisse de mon esprit, je me levai et allai vers eux, et leur dis que je ne pensais guère trouver de tels agissements ni entendre un tel langage dans la maison de Dieu. Je crains, dis-je, d'avoir été trompé, on m'a fait entrer parmi vous par une belle apparence, mais je ne vois pas la gloire, la paix et la tranquillité que j'attendais. Je m'éloignai donc, vers une autre partie de la maison, où j'entendais un grand bruit et des paroles dures. En m'approchant, je compris qu'il s'agissait de choisir un officier. Deux le disputaient, et chacun avait rassemblé un parti de partisans, et chaque parti s'échauffait contre l'autre. Dès que je pus me faire entendre, je leur parlai et leur dis que de tels agissements ressemblaient davantage à un lieu du monde appelé Billingsgate astérisque qu'à la maison de Dieu. J'allai un peu plus loin, et là j'entendis des femmes se crêler pour prendre le dessus, et au sujet des modes de leurs vêtements, et d'autres au sujet des jouets de leurs enfants qu'elles se prenaient les uns aux autres. Tout cela, et bien plus que je ne mentionnerai, augmenta ma tristesse, astérisque Billingsgate. Un marché près de Billingsgate à Londres, célèbre pour le poisson et le langage grossier. Je commençai alors à désirer parler avec mon guide qui m'avait amené là, et après une recherche diligente je le trouvai enfin, et je commençai avec lui ainsi, où m'avez-vous conduit, et où sont les règles et les ordres dont vous m'avez dit qu'ils étaient dans la maison de Dieu. J'ai souvent lu la beauté, l'ordre, la paix et la pureté de la maison de Dieu, mais ici je ne trouve que le contraire. Je crains que vous ne m'ayez amené dans une mauvaise maison et ne m'ayez dupé. Alors je lui dis ce que j'avais entendu et vu, à quoi il répondit que je devais m'attendre à ce que les hommes aient leur faiblesse humaine, et que les hommes ne sont que des hommes. Il tenta de me persuader d'être satisfait et de donner une autre chance. Quant aux ordres et règles dont il parlait, ils concernaient surtout les aliments et les boissons, ainsi que les règles pour l'élection d'officiers chargés de gouverner la maison de Dieu, comme je le verrais avec le temps si je restais. Quant à la saleté de la maison, il avoua que ceux qui étaient chargés de la tenir propre n'avaient pas été aussi diligents qu'ils auraient dû l'être, mais il espérait qu'après admonestation ils seraient plus soigneux. À quoi je répondis, « Quoi, vous parlez de faiblesse humaine dans la maison de Dieu ? Cette plainte est répandue dans le monde, mais ne convient pas à la maison de Dieu, dans laquelle, ai-je entendu dire, nul ne peut entrer que ceux qui sont rachetés de la terre et lavés de leurs souillures, car Dieu dit, « Tous les vases de ma maison seront saints, et ceux qui demeurent dans la maison de Dieu doivent avoir le cœur pur et les mains nettes. » Et je lui dis encore bien davantage de ce que j'avais entendu et lu concernant la maison de Dieu. Je lui dis aussi franchement que j'avais nourri une telle croyance dans la paix, la pureté, la gloire et le bonheur de la maison de Dieu que j'étais persuadé que ce n'était pas elle, et où la trouver, je ne le savais pas, mais si je ne la trouvais jamais de mon vivant, je ne cesserai jamais de la chercher, car mes désirs allaient toujours vers elle, et je pensais que rien ne me satisferait en deçà de la jouissance d'y être. « Mais quant à votre maison ici, dis-je, je n'y trouve aucune satisfaction, ce n'est pas le lieu que je cherche, je dois donc vous quitter. » Il me répondit qu'il regrettait que je ne puisse être satisfait là comme lui, mais si je ne le pouvais pas, il ne mettrait aucun obstacle. Pour sa part, il m'avait dirigé autant qu'il le savait et ne pouvait rien faire de plus pour moi. Lorsque notre entretien fut terminé, je me levai et sortis, mais je ne savais où aller. Plusieurs dans la maison me jetèrent des choses, avec malice, mais aucune ne me blessa. Ainsi j'errai tantôt vers le nord, tantôt vers le sud, et par tous les chemins qui me venaient à l'esprit. Mais où que j'aille, l'angoisse de mon âme allait avec moi, ce que nulle langue ne peut exprimer, ni plume d'écrire, ni personne croire, à moins que cet écrit ne tombe sur quelqu'un qui ait éprouvé la même angoisse, ce qui, si cela arrive, sera compris. Mais il en était ainsi, je n'avais de consolation ni nuit ni jour, et je continuais d'aller, ne sachant si je prenais le bon ou le mauvais chemin, et n'osant demander à qui que ce soit, de peur d'être trompé de nouveau. Puis j'entrai dans un vaste désert hurlant, où il semblait n'y avoir aucun chemin, seulement, de temps en temps, je trouvais des traces de pas d'hommes et de femmes, ce qui m'apportait quelque consolation dans ma tristesse, mais s'ils en sortaient sans être dévorés par des bêtes sauvages, où je devais aller, je ne le savais pas. Dans ce triste état, je voyageais de jour en jour, cherchant en moi-même ce que j'avais le mieux à faire, soit désespérer entièrement en cette condition, soit chercher quelque autre bourg ou cité, pour voir si je pouvais trouver un autre guide. Je voyais que la première voie était désespérée, et je désespérais aussi de la dernière, ayant été si souvent trompée, si bien que toutes ces interrogations ne faisaient qu'augmenter l'amertume de mon âme. Un jour, comme je voyageais l'après-midi, un terrible orage s'éleva avec grêle et tonnerre et un grand vent qui dura jusqu'à la nuit, et pendant la nuit aussi. Fatigué de corps et d'esprit, je m'allongeai sous un grand arbre, et au bout d'un moment je m'endormis. Quand je m'éveillai et revins à moi, il faisait encore très sombre, et regardant autour de moi, je vis une petite lumière près de moi, et il me vint à l'esprit d'aller vers elle et de voir ce que c'était, et à mesure que j'avançais, la lumière allait devant moi. Alors il me vint à l'esprit que j'avais entendu parler de fausses lumières, comme ignifatu, et autres semblables qui égarent les gens. Puis je pensai encore, comment pourrais-je être égaré, alors que je ne connais aucun chemin de sûreté. Et tandis que je m'asseyais pour laisser ces pensées contraires suivre leur cours, je remarquai et contemplai la lumière, aussi près de moi qu'au commencement, comme si elle m'avait attendu. J'en fus vivement touché et je pensai en moi-même. Peut-être quelque bon esprit est-il venu me prendre en pitié et me conduire hors de cette misérable condition. Ainsi naquit, dans mon esprit, la résolution de me lever et de la suivre, concluant en moi-même que je ne pouvais être conduit dans un état beaucoup pire que celui où j'étais alors. Je me levai donc et la suivis, elle avançait d'abord à une allure douce et aisée, et je gardais les yeux fixés sur elle. Mais ensuite, je trouvai qu'une grande partie des bagages et des provisions que j'avais rassemblées ne faisaient que m'alourdir dans mon voyage. Je jetai donc une chose, puis une autre, de ce que je pensais pouvoir le mieux épargner, mais je gardai encore près de moi un gros paquet de vêtements, ne sachant pas si j'en aurais besoin. Tandis que je continuais ainsi, avec la lumière devant moi, elle me mena hors du désert à travers une plaine sans arbres ni habitants seulement, il semblait que quelques-uns avaient pris ce chemin. La lumière demeura sur ce sentier étroit, sans aucun détour ni sinuosité, jusqu'à ce que j'arrive au pied d'une grande montagne. Et en gravissant cette montagne, je trouvai l'ascension très difficile, et je mis à considérer mon gros paquet de vêtements et d'habits, et que plusieurs d'entre eux étaient inutiles pour un voyageur comme moi, qui ne savait pas jusqu'où il irait, ni s'il en aurait besoin, si jamais il avait le bonheur d'atteindre ce qu'il visait, ni si ces modes conviendraient au lieu où il allait. Je jetai donc quelques-uns, puis bientôt d'autres, jusqu'à ce qu'il ne me restât plus que ce que je portais. Ainsi, suivant mon guide, j'atteignis enfin le sommet de cette montagne, d'où j'en vis une autre plus haute encore. Je vis aussi un homme qui me demanda où j'allais. Je lui dis que je ne pouvais guère le dire, mais que je dirais où je désirais aller. Il demanda « Où ?» Je répondis « À la maison de Dieu ». Il me dit que c'était bien le chemin, mais il pensait que je n'y arriverais jamais. Je lui demandai pourquoi. « Pourquoi, dit-il, il y a dans cette montagne là-bas tant de vipères, d'aspics et de serpents, et de telles bêtes venimeuses qu'elles dévorent beaucoup de gens qui prennent ce chemin ?»« Pour ma part, dit-il, j'y allais aussi, mais j'ai été si effrayé par ces serpents venimeux que j'ai été forcé de rebrousser chemin, et je vous conseille de faire de même. » Je lui répondis, « Ami, depuis quelque temps déjà, j'ai pris cette lumière là-bas pour guide, et elle m'a dirigé sur cette route, et je vois qu'elle ne me quitte pas, regardez, la voyez-vous là devant moi ?» Il répondit, « Oui, je la vois. Eh bien, dis-je, j'ai entendu de voyageurs que si un homme a du feu ou de la lumière, les bêtes venimeuses ne peuvent lui faire de mal, et j'ai l'intention d'accélérer un peu le pas et de suivre la lumière d'aussi près que je le pourrai. Venez, allez avec moi et tentez l'aventure. » Il dit que c'était vrai, il avait entendu dire que le feu préservait des bêtes, mais il pensait que la lumière ne le ferait pas. Toutefois, pour sa part, il ne voulait pas risquer sa douce vie parmi elles, Si je le voulais, je le pouvais, il me souhaita du bien, et nous nous séparâmes. Je me hâtai alors, et me rapprochai assez de la lumière, et je gravis la seconde montagne, et quand j'en fus presque au sommet, je vis de nombreux repères de serpents et trous de vipères, à droite et à gauche. Les bêtes venimeuses s'approchaient de moi, sifflaient, et je commençai à être saisi d'une grande peur et à trembler extrêmement. Mais bien des fois, quand elles allaient me piquer, la lumière s'interposait, ou apparaissait entre elles et moi, et elles prenaient peur et s'enfuyaient dans leurs trous et leurs repères. Oh, lorsque je m'en aperçus, comme mon cœur bondit de joie en moi, ma joie déborda, ma crainte des serpents diminua, mon amour pour mon guide bienveillant et tendre augmenta, et mon courage et ma confiance se renouvelèrent, et je commençai à croire que j'étais sur la bonne voie pour atteindre mon désir. Je continuai donc, gardant les yeux sur la lumière parmi eux tous, sans dommage, jusqu'à ce que j'arrive au sommet de la montagne. Alors je vis une vallée excessivement vaste, si bien que je ne pouvais en voir l'autre côté. Elle semblait n'être que lande ou lieu d'eau, et tourbière et bourbier sur toute son étendue, ce qui commença de nouveau à me décourager, mais pensais-je que faire? Jusqu'ici tout va bien. J'ai été étrangement délivré des serpents, et quoi qu'il en advienne, si cette lumière ne me quitte pas, je la suivrai, fût-ce à travers le feu et l'eau. Je continuai donc, et je descendis la montagne à une allure douce et aisée, et je vis beaucoup de ces créatures cruelles en chemin, qui pointaient leurs dards vers moi, mais aucune ne me blessa. Et je remarquai que plus je restais près de la lumière, plus elle s'écartait de moi. Ainsi je descendis jusqu'au bas de la montagne, dans la grande vallée, qui était très verte et agréable sur une petite distance. Mais bientôt la lumière se dirigea vers un grand terrain de lande plein d'eau, que je jugeai très dangereux, mais en arrivant juste au bord de cet endroit, je vis un petit sentier étroit au milieu, tout juste assez large pour qu'un homme y marche. La lumière me mena dans ce passage étroit et allait devant moi. Tant que je gardais les yeux fixés sur elle, j'avançais en sécurité, mais si à un moment quelconque, je commençais à regarder alentour, mes pieds glissaient dans la boue et les flaques, et il fallait alors beaucoup d'efforts pour revenir sur mon chemin. Si la lumière n'avait pas, avec bonté et tendresse, attendu pour moi, je l'aurais perdue de vue, et j'aurais péri en route. Car parfois elle était si loin devant moi que je pouvais à peine la distinguer, alors je redoublais d'application et prenais plus de soin à mes pas, et je restais aussi près d'elle que je le pouvais, si bien que parfois la lumière brillait tout autour de moi, et je marchais dans ses clartés avec une grande plénitude d'esprit. Après avoir longtemps marché dans ce passage étroit, je levai les yeux vers l'autre côté de la vallée semblable à une lande, et je vis au-delà une montagne très haute, et au sommet de celle-ci une grande maison. À la vue de la maison, je fus grandement réconforté, supposant que c'était peut-être la maison que je cherchais depuis longtemps. Mais après cela je rencontrai une autre dure épreuve. Car je perçus que beaucoup avaient voyagé dans ce passage étroit, et étaient tombés dans la boue, certains à droite, d'autres à gauche. Ils gisaient, se vautrant plein d'envie. Certains m'agrippaient pour m'y tirer, d'autres me jetaient de la boue et de la saleté pour me décourager, d'autres parleraient très agréablement, exprès pour m'entraîner dans la conversation, afin que, perdant ainsi mon précieux temps, je sois laissé si loin derrière que je perde de vue mon bon guide. Mais je vis leur mauvais dessein et je m'en gardai. Ainsi, demeurant dans mon passage étroit jusqu'à la fin de la vallée marécageuse, je trouvai alors un sol ferme sous mes pieds, à ma grande consolation. J'avais fait à peine un peu de chemin lorsque mon guide, la lumière, entra dans un chemin creux étroit, bien bordé de haies des deux côtés. J'en fus heureux, pensant que je ne pouvais pas me tromper et que je n'avais plus besoin de tant de prudence. Mais hélas! Je trouvai vite tant de sentiers de traverse et de voies, presque aussi rectilignes que celles où j'étais, que sans la lumière, qui allait un peu devant moi, j'aurais certainement bien des fois pris la mauvaise route, mais en me tenant soigneusement à mon bon guide, je gravis enfin la montagne et revis la maison. Je distinguai alors un homme du pays assez loin. Je l'appelai « Ami ».« Hola, ami, quel est le nom de cette grande maison là-bas ? » Il me dit que son nom était Bessel. Je me souvins que Bessel était le nom par lequel on appelait la maison de Dieu dans le pays de mon père, où j'en avais entendu les récits et d'où j'étais parti avec tant d'ardeur pour la trouver. La joie et la consolation que je ressentis dans mon âme, aucune langue ne peut les exprimer, en pensant qu'après tous mes voyages, périls et déceptions, j'avais trouvé ce que je cherchais. Je continuai donc, voyageant dans une joie inexprimable. En marchant, je contemplai l'extérieur de la maison. Elle était très grande et n'avait qu'une seule tour, il n'y avait autour aucun travail sculpté, aucune peinture, ni aucun ornement discernable, mais toutes les pierres étaient curieusement assemblées de haut en bas. Je remarquai aussi que toutes les pierres de la construction étaient transparentes, certaines plus, d'autres moins, et je ne vis aucune fenêtre. En m'en approchant, je vis qu'elle avait une grande cour extérieure, ainsi qu'une porte assez grande pour qu'un homme y entre avec un lourd fardeau sur le dos. Je vins donc à Alejandre, et là je vis beaucoup de gens qui étaient très joyeux et semblaient mener une vie fort agréable. Certains me dirent qu'ils y vivaient depuis de nombreuses années, qu'ils en étaient bien contents et ne manquaient de rien, car un arbre puissant avait poussé au milieu de la cour, et son fruit était bon ainsi que ses feuilles, et il portait du fruit toute l'année. Beaucoup eurent la bonté de m'inviter à m'asseoir et à manger avec eux, mais je refusai, et ils me montrèrent une grande citerne qu'ils s'étaient creusée pour recueillir l'eau des éléments, et ils s'étaient fait de commodes logements sur les côtés de la cour pour y loger. Mais cela ne me satisfit pas, car je vis mon guide bien-aimé passer à travers eux tous et entrer par une porte étroite à l'autre extrémité. Alors je l'ai quitté et parcouru la moitié du chemin jusqu'à la porte où j'avais vu entrer mon guide, et j'essayai d'y entrer, mais je ne pus tant elle était resserrée, ce qui me plongea dans une grande tristesse d'esprit, et je ne sus que faire. Mes pensées me troublaient de tous côtés, et j'essayai toutes les voies mais sans succès. « Oh, pensais-je, tous mes troubles et mes labeurs en sont-ils arrivés là? Dois-je être finalement repoussé? Que faire? » Comme je me tourmentais ainsi, je crus entendre une voix, sans savoir d'où elle venait, qui disait « Jeune homme, dépouille-toi de tes vieux vêtements, et tu pourras entrer. » Cela suscita des pensées encore plus troublantes, car je répugnais à aller nu. Toutefois, je pensais du moins qu'il valait mieux entrer nu que ne pas entrer du tout. Ainsi, finalement, je me mis à me dépouiller, pensant que quelques misérables haillons ne devaient pas m'empêcher d'une si grande jouissance. Et lorsque je fus entièrement nu comme au jour de ma naissance, j'essayai d'entrer et ne trouvai pas grande difficulté. Et dès que je fus entré, quelqu'un me rencontra et jeta sur moi un vêtement de pur lin blanc, qui me descendait jusqu'aux pieds, puis il me conduisit dans une petite chambre et dit « Repose-toi ici quelque temps ». Alors je m'étendis dans une joie et une consolation impossible à exprimer, tout était si agréable autour de moi, et mon lieu de repos si délicieux, et mon cœur si pleinement satisfait, que j'en fus saisi de chants de joie. Mais je compris qu'il m'appartenait de demeurer immobile et paisible dans la condition heureuse dont j'étais venu jouir. Je n'étais pas depuis longtemps dans cette chambre que je sortis pour voir la beauté et la grâce de la maison. En la parcourant, je trouvai tout si propre et si éclatant que j'en fus ravi d'une manière admirable. Je rencontrai aussi des personnes qui me souhaitèrent la bienvenue dans la maison de Dieu avec une telle bonté qu'elle rafraîchit mon cœur. Et à mesure que je fis leur connaissance, j'observai leur conduite, et leurs entretiens me furent extrêmement réconfortants. Point de crêle, point de dispute, point de parole haute ni enflammée, mais tout se passait avec douceur et révérence, et le respect dû les uns aux autres. Les jeunes gens attendaient les paroles des anciens, et les vierges portaient un respect révérencieux aux matrones, et il y avait un souci et une unité universelle, dont je fus grandement étonné. Un jour, comme j'ouvrais mon cœur à une personne âgée, je lui dis que j'admirais beaucoup et m'étonnais grandement de la concorde universelle que j'avais remarquée, au-delà de tout ce que j'avais rencontré de ma vie. Il me dit que cela devait nécessairement être ainsi et ne pouvait être autrement, car le guide qui m'avait conduit là avait été le guide de tous. Il me dit encore qu'il ne pouvait y avoir de contention que là où deux esprits luttent pour la maîtrise, mais que cela n'arrivait pas dans cette maison. Sa réponse me parut si complète et satisfaisante que je ne lui dis plus rien à ce moment-là, mais continuer à observer et à contempler l'ordre de tout ce que je voyais, jusqu'à ce que mon âme en fût remplie, et je pouvais dire que ma coupe débordait. Ainsi mes anciens labeurs et mes déceptions, mes chagrins et mes périls ne comptaient plus pour rien à mes yeux, ayant maintenant une pleine récompense 100 fois meilleure. Je retournai donc à mon repos, dans une chambre plus grande qu'auparavant, chantant des louanges à mon Dieu, et proclamant les louanges de la maison et de ceux qui y demeuraient. Quelque temps après, on me fit sortir de la chambre où j'étais, et l'on me dit que je n'avais pas été amené en ce lieu seulement pour y prendre plaisir et y trouver des délices, mais qu'il y avait du travail à faire, et que je devais y prendre ma part, et être fidèle et diligent dans mon emploi. À quoi je répondis que c'était assez pour moi d'avoir atteint mon désir en étant admis dans ce lieu céleste, mais que s'il y avait quelque tâche que je puisse faire, j'étais prêt à la faire, quelle qu'elle fût, car ma plus grande joie serait de faire quoi que ce soit pour l'avancement de l'honneur de la maison de Dieu et de ceux qui y demeuraient. Alors celui qui m'avait parlé me dit que mon travail était d'enseigner aux enfants autant que je savais et que j'avais appris, et autant que je saurais, et autant que je serais, de temps en temps, davantage instruit. J'en fus un peu étonné, connaissant mes incapacités, mais ayant réfléchi un peu à cette partie de la phrase que je serais de temps en temps davantage instruit, je pris courage dans mon travail et fis quelques progrès avec une grande crainte et révérence, attendant chaque jour les instructions que je devais recevoir et que je reçus en abondance, et l'œuvre prospéra en mes mains, et les enfants m'aimèrent, et je les aimai entièrement, comme s'ils eussent été mes propres enfants. Beaucoup d'entre eux grandirent avec une bonne intelligence et observaient leur place et leurs ordres à ma grande joie. Ainsi continué quelque temps, celui qui m'avait parlé vint et me dit que je devais prendre la charge de cette partie de la maisonnée et leur donner leur nourriture en temps convenable. et adapter la nourriture de chacun en la répartissant selon l'état et la condition de chacun, et ne pas nourrir des hommes forts avec du lait, ni des bébés avec une nourriture solide. À cette fin, il me donna une clé qui menait au trésor au magasin, que lorsque je vins à le voir et à le contempler, je trouvai abondamment rempli de toutes. J'observai que tout ce que moi et d'autres en retirions pour le distribuer chaque jour à la maisonnée de Dieu, le magasin restait toujours plein comme au commencement, et il en est ainsi jusqu'à ce jour, et pour toujours. Or, après avoir demeuré longtemps dans cette habitation céleste, il me vient à l'esprit de faire savoir à mes compatriotes et aux enfants de mon vieux père que j'ai laissé à Babylone ce que je suis devenu. Car je suppose qu'ils me jugent perdu ou dévoré, mais je serais heureux si l'un, oui, tous, étaient ici pour voir, goûter et sentir ce que je sens. Qu'aucun d'eux ne dise que les choses ont mieux tourné pour moi que pour beaucoup, car j'ai compris, depuis mon entrée dans cette maison, que la même lumière qui m'est apparue apparaît à toute pauvre âme affligée dans le monde entier. Mais la raison pour laquelle si peu viennent ici est qu'ils craignent les périls et les dangers du chemin plus qu'ils n'aiment la lumière qui les y conduirait, et ainsi ils s'écartent et s'abritent dans un vieux bâtiment pourri qui, tôt ou tard, s'effondrera sur leur tête, et ils périront dans les ruines. Or si quelques-uns ont à cœur de connaître mon nom, qu'ils sachent que j'avais un nom dans le pays de mon père, mais, au cours de ce long et fastidieux voyage, je l'ai perdu. Mais depuis que je suis venu ici, j'ai un nouveau nom, mais je n'ai aucun caractère pour le signifier, que je puisse écrire ou que l'on puisse lire. Pourtant, si quelqu'un vient là où je suis, il connaîtra mon nom. Mais pour plus ample satisfaction, je suis né en Égypte, spirituellement ainsi appelé, et mon père alla vivre à Babylone, à peu près au temps où les véritables enfants d'Israël étaient en captivité. Là, je fis connaissance avec quelques-uns de la race des Juifs, vers le temps où ils retournaient dans leur propre pays, et ils me racontèrent des choses merveilleuses sur la gloire de la maison qu'ils avaient à Jérusalem, et ils auraient voulu que j'aille avec eux. Je compris que Salomon, avec plusieurs milliers de charpentiers et de maçons, l'avait bâti, sur quoi je considérais en moi-même que, si Salomon et les charpentiers et les maçons l'avaient bâti, des charpentiers et des maçons pourraient, à un moment ou à un autre, la renverser de nouveau. Je n'y allais donc pas, mais je cherchais une cité dont le bâtisseur est Dieu, et maintenant je l'ai trouvée. Alléluia au plus haut, gloire, honneur et renommée à son digne nom et à sa puissance, à travers tous les âges et toutes les générations. Amen. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.